un journal proposé par Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Début du retrait américain du nord de la Syrie. Pour Donald Trump, il est temps de laisser les Turcs et les Kurdes résoudre eux-mêmes la situation. Une position qui fait débat aux États-Unis, à l'analyse de notre correspondant Grégory Phillips. Deux semaines d'action coup de poing à travers le monde. Les militants d'Extinction Rébellion sont mobilisés à Sydney, Buenos Aires et aussi à Paris pour réclamer des changements radicaux en faveur de l'environnement. Débat controversé sur la politique migratoire à l'Assemblée. Le système français d'asile est saturé, affirme Édouard Philippe, qui se dit ouvert à l'idée de quotas. Nouveau plan social pour la société Bonasabla, leader du béton préfabriqué. 230 emplois sont menacés. Reportage d'Anne-Laure Chouin auprès de salariés exaspérés. La France appelle la Turquie à ne pas lancer d'opération militaire contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Paris redoute une initiative qui irait à l'encontre des intérêts de la coalition globale contre Daesh, ajoutant que la détention sûre des djihadistes européens dans le nord-est de la Syrie est un impératif de sécurité. Cette inquiétude fait suite à l'annonce du président turc. Alors que les troupes américaines ont débuté ce matin leur retrait de secteurs proches de la frontière turque, Recep Tayyip Erdogan affirme qu'une offensive peut être lancée à tout moment dans le nord de la Syrie. Alors ce soir, nous allons suivre ce dossier depuis Washington avec notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips. Grégory, les forces kurdes étaient des alliés de Washington dans la lutte anti-djihadiste, mais Donald Trump estime aujourd'hui que ça n'est pas à lui de gérer la situation.
Oui, c'est exactement ça le nœud du problème. La décision de Trump a été annoncée tard hier soir dans la foulée d'un entretien téléphonique avec le président turc Erdogan et quasi immédiatement appliquée dès 6 heures ce matin. Les troupes américaines qui étaient déployées le long de la frontière avec la Turquie ont commencé à se retirer. Alors Donald Trump justifie ainsi cette décision. Il est temps pour nous de nous retirer de ces guerres sans fin, coûteuse, et de ramener nos soldats à la maison. Le président américain laisse le soin à la Turquie, à l'Europe, à la Syrie, aux Kurdes et aux autres acteurs régionaux de résoudre la situation, et notamment celle des prisonniers djihadistes que chaque pays devra traiter. Les États-Unis abandonnent donc à leur sort les Kurdes et les forces démocratiques syriennes, leurs alliés dans la lutte contre l'État islamique, dont Donald Trump dit qu'il est aujourd'hui éradiqué à 100%.
Mais cette décision du président américain est contestée aux États-Unis, y compris dans son camp, Grégory.
C'est vrai, même au sein de la majorité républicaine, cette décision est très vivement critiquée. Vous avez par exemple l'influent sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham. C'est un proche du président, même s'il a souvent critiqué sa politique étrangère. Eh bien, qui dit que c'est une décision irresponsable et à courte vue, l'abandon des Kurdes sera une tâche sur l'honneur de l'Amérique. Et puis vous avez aussi Nikki Haley, l'ex-ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, qui, à propos des Kurdes, déclare « les abandonner, les laisser mourir serait une énorme erreur ». Tout ça rappelle un peu la démission du secrétaire à la Défense Jim Mattis, qui au début de cette année avait rendu son tablier parce qu'il trouvait insupportable l'idée que les États-Unis puissent ainsi abandonner leurs alliés. Enfin, il y a ces mots très durs de la part de Brett McGurk, qu'il fut jusqu'à la fin de l'année dernière l'émissaire de Donald Trump en charge de la lutte contre l'État islamique, et il dit ceci: Trump n'est pas un commandant en chef, ses décisions sont impulsives et elles démontrent une totale incompréhension de ce qui se passe sur le terrain.
Grégory Phillips à Washington, et ce soir un responsable américain semble vouloir minimiser la décision américaine en disant que Washington ne requiert qu'un tout petit nombre de soldats près de la frontière turque. Donald Trump est en ce moment sur des charbons ardents, et ce depuis le début de la procédure de destitution lancée contre lui. Voilà une nouvelle qui ne devrait pas l'apaiser. Un juge fédéral de New York a autorisé le procureur de Manhattan à accéder aux déclarations de revenus du président américain. Le procureur Cyrus Vance poursuit son enquête sur un versement effectué à l'actrice pornographique Stormy Daniels pour acheter son silence sur une liaison supposée avec Donald Trump. Washington et Pékin vont reprendre leurs négociations commerciales. Une délégation chinoise de haut niveau est attendue jeudi aux États-Unis, délégation menée par le vice-premier ministre chinois. La Chine qui suit de près l'actualité de Hong Kong, où le gouvernement envisage maintenant de limiter l'accès à Internet. Il y a 3 jours, il interdisait le port du masque dans les rassemblements, mais contrairement à son objectif, cette mesure a attisé la contestation pro-démocratie qui enfle depuis 4 mois. Pékin soutient depuis le début les forces de l'ordre hongkongaises et n'apprécie pas pas les commentaires venus d'Europe. Le porte-parole de l'ambassade de Chine à Paris qualifie d'hypocrite et irresponsable les messages de l'Union européenne et des autorités françaises appelant à la désescalade. Il n'hésite pas à faire un lien entre les difficultés du gouvernement hongkongais et la crise des gilets jaunes en France, Nathanaël Charbonnier.
Il y a un proverbe que les autorités chinoises semblent avoir parfaitement intégré, c'est celui qui dit qu'on voit plus facilement la paille dans l'œil de son voisin que la poutre qui est dans le sien. C'est ainsi que dans son communiqué, le porte-parole de l'ambassade chinoise souligne que lors de la crise des gilets jaunes, son pays a fait preuve d'empathie à l'égard de la France et n'a pas cherché à profiter des difficultés de la police française. Une façon aussi de sous-entendre que le problème hongkongais est un problème de politique intérieure chinoise et qu'il ne concerne en rien la communauté internationale, tout comme la crise des gilets jaunes ne devait être commentée à l'extérieur de l'Hexagone. Une façon pour les Chinois aussi de mettre la pression sur le président français alors qu'un voyage officiel d'Emmanuel Macron est annoncé pour début novembre. Un prétexte idéal pour désamorcer les critiques qui entourent chaque voyage officiel sur les droits de l'homme en Chine. Cela dit, la crise à Hong Kong n'est pas tout à fait la même. L'engagement de la Chine devant la communauté internationale était de respecter le fameux principe « un pays, deux systèmes ». Or, avec son attitude, la Chine semble retomber dans ses pires travers. L'occasion de rappeler aussi ce proverbe chinois qui dit que les maladies que l'on cache sont les plus difficiles à soigner.
Face aux manifestations qui se déroulent à Bagdad, le guide suprême iranien Ali Khamenei apporte son soutien aux autorités irakiennes. Le haut dignitaire religieux à Téhéran qualifie les mouvements de protestation de complots d'ennemis qui cherchent à semer la discorde entre l'Irak et l'Iran. Mais pour le chercheur à l'IRIS Karim Pazat, rien ne prouve que des manifestations soient manipulées, bien que l'Irak reste un pays en guerre.
L'Iran est très proche de l'autorité irakienne. Et d'ailleurs, c'est tout à fait été attendu que l'Iran apporte leur soutien à la stabilité irakienne. L'Irak est le carrefour de tensions et de rivalités entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Daesh n'est toujours pas vaincu totalement. Donc, tous ceux qui n'aiment pas la stabilité en Irak pourraient profiter de ces manifestations. Mais dans la situation actuelle en Irak, il y a toutes les forces attachées directement à tel ou à tel pays. Mais comme dit l'Iran, qui accuse indirectement l'Arabie saoudite parce que les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran sont toujours conflictuelles, que l'Irak c'est un terrain de rivalité entre eux, mais nous n'avons pas encore des éléments précis pour confirmer qu'effectivement les manifestants sont manipulés par tel ou tel autre pays étranger.
Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS, joint par Nadine Epstein. Il a été voulu par le chef de l'État. Le débat sur la politique migratoire a commencé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le sujet divise, y compris au sein de la majorité. Le gouvernement dit vouloir aborder ce sujet sensible sans tabou. Le coup d'envoi a été donné à 16h par le Premier ministre Édouard Philippe, suivi par les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Santé. Thomas Larabie, vous êtes à l'Assemblée pour France Culture. Les députés répondent maintenant au gouvernement.
Oui, il y a quelques minutes, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est monté à la tribune face à un hémicycle aux trois quarts vide. Le leader de la France insoumise a tiré à tout va, notamment sur le gouvernement qui fait selon lui de l'immigré le bouc émissaire plutôt que les financiers, les évadés fiscaux et les corrompus. Bref, peu de concret finalement sur le droit des étrangers. Le député communiste Stéphane Peu a lui proposé le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Pas beaucoup plus de propositions chez Nicolas Dupont-Aignan, croisé plus tôt dans la salle des quatre colonnes. Il a immédiatement agité l'attaque au couteau de la préfecture de police de Paris, perpétré par un ressortissant français pour dénoncer l'urgence migratoire à laquelle la France fait face selon lui. Bref, quoi qu'il en soit, ce sont 27 députés qui vont se succéder jusqu'à 20h pour répondre au gouvernement. Édouard Philippe, vous le disiez, qui a ouvert le débat en posant son diagnostic. Selon lui, les flux migratoires en Europe sont en baisse depuis 2 ans, mais la France subit en ce moment même et avec retard la crise de 2015. Il pointe du doigt 2 facteurs, le règlement de Dublin, inefficace, mais aussi les afflux de pays considérés comme sûrs par l'OFPRA, l'Office National de Protection des Réfugiés et des Apatrides.
Parmi les 3 premières nationalités de demande d'asile en France, on trouve la Géorgie et l'Albanie, c'est-à-dire des pays qui sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Nous avons le devoir de nous interroger sur les causes de cette situation, car la réalité, c'est que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile sont débordées par le nombre des demandes et qu'en définitive, ce sont les personnes qui ont vraiment droit à la protection en France et qu'il faudrait pouvoir accueillir vite et bien, qui en pâtissent.
Le Premier ministre partageait l'image de sa majorité, refusant le terme de submersion cher à l'extrême droite au sujet de l'asile, mais se déclarant prêt à parler de quotas dans l'immigration professionnelle. La ministre de la Santé Agnès Buzyn, elle a confirmé son intention de refonder l'aide médicale d'État. Elle refuse en revanche de mettre en place une participation financière des personnes sans papier qui en bénéficient.
Thomas Larabi en direct de l'Assemblée et un débat sur le même modèle aura lieu au Sénat après-demain. Quelques heures avant le lancement de ce débat, une dizaine d'associations rassemblées au sein des États généraux d'immigration ont organisé une conférence de presse. Pour elles, le débat part sur de mauvaises bases. Il s'appuie sur des idées préconçues, trop loin de la réalité, trop loin de ce que les associations de terrain constatent au quotidien au contact des premiers concernés. Elles se disent donc inquiètes, voire carrément pessimistes, Louis de Bergevin.
On n'en attend pas grand-chose, c'est la phrase qui revient en boucle dans la bouche de tous les intervenants, dont Dominique Noguère, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme.
Ça fait très longtemps qu'on demande à ce que l'on parle des migrations d'une autre manière. Ça, on est d'accord pour un débat, il n'y a pas de problème, mais un débat avec des éléments factuels, avec des éléments concrets, pas avec des fake news, qu'on écoute ce que dit Médecins du Monde sur les conditions d'accès à la santé, qu'on écoute ce que disent les associations qui sont sur le terrain, sur les difficultés que les étrangers ont à pouvoir accéder aux préfectures, ça oui.
Et c'est ce que revendiquent ces associations. Elles travaillent sur le terrain, donc disent connaître le problème. David Saunier est membre de l'Assemblée locale des débats sur l'immigration à Caen. Il voudrait être entendu.
Ça serait peut-être que les élus apprennent à lire. C'est qu'en fait, les parlementaires ne s'emparent pas des sujets et des travaux des universitaires et des observations des personnes sur le terrain. Donc qu'elles prennent le temps et qu'elles ne décident pas des choses juste sur des idées préconçues.
Alors il se dit prêt à discuter avec les parlementaires pour leur présenter le quotidien des associations.
Nous, on ne demande que ça, à les accompagner pour pouvoir voir, à leur témoigner avec des exemples détaillés, renseignés. Il y a des rapports qui existent qui sont très étayés. Et on sent que dans les débats, les données, elles ne sont pas lues et pas utilisées.
Et il lance un appel aux élus, venez chez nous pour suivre une maraude.
4 jours après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, Christophe Castaner souhaite resserrer les mailles du filet contre la radicalisation islamiste au sein des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur propose que les alertes fassent l'objet d'un signalement automatique. Il reconnaît des failles et un dysfonctionnement d'État, mais pas de scandale d'État. Et Christophe Castaner ne compte pas démissionner comme le souhaiterait une partie de l'opposition. L'auteur de l'attaque était informaticien dans un service de renseignement de la préfecture de police, habilité secret défense. Il avait montré quelques signes de sa radicalisation, mais rien n'a jamais été consigné par écrit. Pour Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du SCSI, syndicat des cadres de la sécurité intérieure, il faut donc améliorer le suivi des agents habilités secret défense et revoir l'organisation des services de renseignement français. Il est interrogé par Vianney Smiarowski.
Le problème, c'est que la réhabilitation, elle est revue tous les 7 ans. Donc le délai est forcément, on peut dire, trop long. Puis il y a peut-être le criblage. Et en gros, on passe à la moulinette des noms dans le système qui permet de voir s'il y a des connexions avec, si on prend le côté religieux, des côtés salafistes, etc. Donc c'est peut-être ça où il faudrait rendre la chose peut-être plus la chose plus régulièrement. Alors attention, sauf qu'une vraie enquête secret défense, c'est long. La première, elle est assez fastidieuse et elle est assez longue. Il faut plusieurs semaines pour pouvoir faire le tour, l'environnement du collègue. Donc il faudrait simplement que quand il y a déjà un signal de changement de comportement, il y ait à la fois un écrit et qu'on reproche pas à un autre agent d'avoir fait un écrit, parce que tout le danger, c'est de tomber dans la chasse aux sorcières. Puis après, qu'on fasse culpabiliser ceux qui ont écrit et qu'on bien faire. Donc tout ça, ça doit être clair, précis et sans tabou. On ne doit pas reprocher à quelqu'un d'avoir été un lanceur d'alerte.
D'après vous, par quoi faudrait-il commencer pour améliorer la situation du renseignement en France ?
Il faut réorganiser le renseignement, c'est-à-dire avoir une organisation beaucoup plus simple. Là, aujourd'hui, on a 3 services de renseignement intérieur. Hein. On a la Direction Générale de Sécurité Intérieure, on a le Service Central du Renseignement Territorial, on a la Direction Régionale de la Préfecture de Police du Renseignement. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Et puis après, en interne, sur la sélectivité des candidats et sur leur évolution une fois qu'ils ont été recrutés, c'est à la fois des passages plus réguliers sur leurs évolutions par rapport aux fichiers qui existent et puis un traitement beaucoup plus rapide et officiel des informations de changement de personnalité qui pourraient être amenées à être recueillies par leurs propres collègues.
Jean-Marc Bailleul du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Son nom est inconnu du grand public, mais elle a contribué à des réalisations prestigieuses comme le MUSEM à Marseille, la fondation Louis Vuitton ou le le stade Jean Bouin à Paris. La société Bonasabla, numéro 1 du béton préfabriqué, procède à un nouveau plan de licenciement. 230 postes sont concernés, 5 sites doivent être fermés ou revendus. Pour les salariés, c'est le plan de trop. Ils ont organisé une série de blocages et de grèves, notamment devant le site historique de Bonasabla à Conflans-Sainte-Honorine. Le reportage d'Anne Lorchouin.
Sur l'une des affiches posées devant l'entrée de l'usine, on peut lire « Pour qu'un bâtiment sorte de terre, c'est un ouvrier qu'on enterre ». Car le site historique de Bonasabla dans les Yvelines, où l'on construit à la chaîne les voussoirs, ces arcs de béton de 3 lignes de métro, n'est pas réputé pour ses bonnes conditions de travail. Salah Saafi, représentant CGT du personnel.
Il a fallu se battre pour mettre en place des équipes de nuit avec des vrais horaires de nuit en respectant la santé et l'hygiène, puisque des fois les salariés se lèvent à 3h du matin, 1h30 ils finissaient.
Daniel, ancien chaudronnier.
Vous voyez les produits des voussoirs là-bas ? Ce sont les produits qui sont chauffés avec des rampes électriques. Nous, quand je suis venu ici, il faisait 30 degrés. On étouffait. Alors cet été, quand il a fait 40 avec les moules qui étaient chauffées, à mon avis, il y a des gens qui ont dû tomber dans les pommes. Au niveau de salaire, il était juste un peu au-dessus du SMIC. Juste de ne pas être hors la loi. Quoi.
Le site de Conflans ne fait pas partie des 5 concernés par le dernier plan social, mais il est emblématique de la stratégie erratique du groupe. Lors d'un des plus grands plans de licenciement menés par la direction il y a 6 ans, l'ensemble des salariés en avaient été licenciés. Avant que la direction ne réembauche des intérimaires, aujourd'hui l'activité tourne à plein. Patrick Ferrez, ancien délégué syndical central, a fait partie des licenciés.
On a gagné au prud'homme et ils ont dépensé pas loin d'un million huit. Le licenciement était sans cause réelle. Donc ils n'ont même pas fait appel parce qu'ils ont eu peur d'en prendre plus et ils ont payé. Maintenant, en voyant ça, en voyant les salariés qu'il y a là-dedans, ça veut dire qu'ils avaient triché sur toute la ligne. Et puis moi, je pense à mon analyse perso, c'est qu'ils ont voulu éliminer le syndicat pour ne plus rendre de compte à personne.
À l'aune de cette expérience, les syndicats doutent fortement des motifs économiques du nouveau plan. Amanda Jones s'occupe de la communication de Consolis, le groupe qui a racheté Bonasabla.
Une partie de l'entreprise ne va pas bien, ce qui pénalise l'ensemble. Il y a deux activités qui sont le génie hydraulique et l'aménagement urbain. Ces deux activités sont en perte et ce depuis plus de 10 ans. C'est en moyenne 30 millions d'euros sur les 3 dernières années.
Les syndicats ont été reçus à Bercy. Ils ont également été écoutés par la direction du travail qui estime que les mesures d'accompagnement pour ce plan sont bien trop faibles.
Anne Lorchouin à Conflans-Sainte-Honorine. Le jeune mouvement écologiste Extinction Rébellion lance une offensive mondiale. Cette ONG internationale organise 2 semaines d'action coup de poing pour dénoncer l'inaction des gouvernements face au réchauffement climatique. En Afrique du Sud, en Australie, en Inde comme en Europe, les militants se mobilisent. À Paris, ils sont quelques centaines. Ils ont choisi un point stratégique au cœur de la capitale, les alentours de la place du Châtelet. Ils bloquent aussi le pont au change qui mène vers l'île de la Cité. Ils ne risquent donc pas de passer inaperçus, Véronique Rebérotte.
Non, et en 3 minutes seulement, le décor était planté cet après-midi. Des bottes de paille qui bloquent les rues, des yourtes montées, des tentes, un bateau bleu aux voiles frappées du logo d'Extinction Rébellion, un sablier donc à l'intérieur d'un cercle bloquait le pont au change et les quais donc de Seine au cœur de Paris. Des centaines de militants difficiles à déloger. Ils sont dont les bras emprisonnés, parfois sanglés ensemble, prenaient donc possession des lieux avec l'idée de passer au moins la nuit sur place. Assemblée citoyenne, musique, information en tout genre, tout est prévu pour durer et débattre aussi dans la bonne humeur. Pour Camille, 34 ans, il s'agit non seulement de parler climat, mais aussi de justice sociale.
Je vais faire pour ma part toute la semaine, et puis c'est qu'un début, parce qu'on est face à une urgence totale, ça fait un moment qu'on en parle, mais on ne voit pas de réaction à la hauteur. Et cette urgence, elle est bioclimatique, mais elle est aussi sociale. Moi je me bats pour véritablement essayer de limiter la casse au niveau de la catastrophe bioclimatique, ce que certains veulent appeler le réchauffement climatique, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Mais cette catastrophe, elle est sociale. Et avant même de parler de catastrophe bioclimatique, on est dans un monde qui est profondément injuste. Une société dont les lois permettent que 26 milliardaires possèdent autant que 3,5 milliards d'individus, de toute façon, n'est pas acceptable. Il est temps de ne plus accepter l'inacceptable, de ne plus tolérer l'intolérable, et c'est le dernier moment où on peut encore réagir.
Beaucoup de militants sont là parce que, disent-ils, les marches pour le climat ne servent à rien, il faut passer à la vitesse supérieure. Yvette, 69 ans, toute frêle, mais déterminée, souhaiterait que sa détermination à agir soit aussi portée par ceux qui ont le pouvoir.
L'humain invente des choses merveilleuses, mais là on se trouve à un moment donné où on s'aperçoit que le capitalisme ne peut plus continuer. On sait très bien qu'on court à notre perte.
Donc vous êtes sur un pont, vous bloquez le pont change à Paris, vous êtes parti pour plusieurs jours.
A priori c'est la semaine, donc on a tous fait une formation non violente, bienveillante. Après, on ne veut pas du tout à nos dirigeants, on veut au contraire les pousser pour qu'ils agissent et qu'ils réalisent vraiment qu'on est au bord du gouffre. Eux, ils sont aveuglés, Je pense qu'ils sont un peu veulent peut-être aussi. Mais s'ils avaient des propos beaucoup plus bienveillants et s'ils disaient on va s'y mettre tous ensemble, ça va être compliqué, ça va être long, je pense qu'on en est là. Mais si le gouvernement nous le dit, on sera avec lui. Et pour l'instant, c'est eux qui sont contre nous et contre la vie tout simplement.
Voilà, Extinction Rébellion a prévu des actions de blocage comme celle-ci toute la semaine en France et partout dans le monde.
Véronique Reberotte, demain mardi, le temps sera pluvieux sur le nord tout au long de la journée, du soleil en revanche sur la moitié sud. Au lever du jour, il fera de 3 à 15 degrés, les maximales 16 à 20 sur la moitié nord, 20 à 27 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.